Radio Okapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, plus de 6000 ménages des déplacés ont reçu des articles ménagers essentiels à Loubero Centre, chef-lieu du territoire du même nom. Une assistance organisée par la Croix-Rouge de la RDC avec l'appui de l'UNICEF est destinée notamment aux familles ayant fui les violences des ADF et l'occupation de certaines localités par l'AFC 123. La circulation de véhicules et des motos est de plus en plus difficile sur plusieurs artères des trois communes de la ville de Bukavu. Nous sommes au sud Kivu. Pour les forces vives locales, l'état des routes handicape le trafic et expose les usagers à des risques d'accident. L'invité de ce journal est le coordinateur de l'ONG Réseau des associations pour le développement communautaire RADEC, Jean-Claude Kayumba Chabani, parle du projet d'assistance d'urgence en protection aux survivants de violences sexuelles dans la zone de santé de Salamabila, en territoire de Kabambaré. Nous sommes au Maniema. Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue, bonne écoute. Au Nord Kivu, plus de 6000 ménages de déplacés viennent de recevoir des articles essentiels à Loubero Centre, chef-lieu du territoire de Loubero. La distribution organisée pendant une semaine par la Croix-Rouge de la RDC avec l'appui de l'UNICEF s'est achevée hier samedi. Une assistance destinée notamment aux familles ayant fui les violences des ADF et l'occupation de certaines localités par l'AFC M23. Les précisions de Martial Papimoukeba.
Couvertures, bâches, ustensiles de cuisine et kits de dignité pour les femmes. Cette assistance doit répondre aux besoins les plus urgents des personnes déplacées. La majorité des bénéficiaires ont fui, pour certains depuis plus de 2 ans, les attaques des ADF dans les secteurs de Bapéré ainsi que l'occupation par l'AFC M23 de certaines localités du sud du territoire de Loubero. Selon Mboussa Kizito, président de la Croix-Rouge au Nord Kivu, cette aide vise notamment à améliorer les conditions d'accueil des déplacés.
C'est soulager tant soit peu les déplacés internes qui sont dans cette partie. Beaucoup de déplacés ont accusé les problèmes de conditions d'accueil. Dans les ménages, il n'y a pas de lit, d'ustensiles, de cuisine. Ils ont aussi accusé des problèmes d'hygiène intime. Et dans cette assistance, on a prévu des kits d'hygiène intime pour les femmes et pour les adolescentes. Le besoin est grand au point que nous avons un chiffre, mais quand on arrive sur le terrain, on trouve que le chiffre est peut-être sous-estimé.
La commune rurale de Loubero accueille des milliers de déplacés hébergés dans des écoles, des familles d'accueil et des sites de déplacés. Selon les acteurs humanitaires locaux, leurs besoins restaient importants. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
La population de Matadi dans le Congo central dénonce l'abandon du projet de modernisation du marché sud situé dans la commune de Mvouzi. Considéré comme l'un des principaux centres commerciaux de la ville, ce marché devait offrir des meilleures conditions de travail aux commerçants et contribuer à réduire le commerce exercé le long des routes. Lancé en 2022, les travaux sont aujourd'hui à l'arrêt, suscitant l'inquiétude des vendeurs et des habitants. Ces derniers appellent les autorités à relancer le chantier dans les meilleurs délais afin de doter les commerçants d'un cadre approprié pour leurs activités. Les détails dans ce reportage signé Élise Kavira.
Le site qui abrite le marché sud ne donne pas l'impression d'un chantier dont la livraison est imminente. Derrière un portail de fortune en tôle se cache un projet à l'arrêt. À l'extérieur, quelques commerçants poursuivent leurs activités en plein air. Parmi eux, cette vendeuse qui affirme avoir placé beaucoup d'espoir dans ce projet de modernisation.
Un si grand marché, les travaux se sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui. Nous demandons si l'État reviendra un jour pour achever ces chantiers. En attendant, nous continuons à vendre en plein air car c'est ici que nous gagnons de quoi subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille.
Selon plusieurs habitants, ce n'est pas la première fois que les travaux de ces marchés connaissent un arrêt. Le marché sud avait déjà bénéficié d'une réhabilitation en 2008 avant le lancement en 2022 d'un nouveau projet de modernisation. Cette année encore, les autorités provinciales avaient promis la reprise du chantier.
Il y a quelques mois, le gouverneur était venu visiter les chantiers et nous avait promis que les travaux allaient reprendre. Mais jusqu'à présent, rien ne s'y passe. Nous sommes toujours dans l'attente.
Contacté à ce sujet, le conseiller en communication du gouverneur indique que des études sont actuellement en cours afin d'évaluer le coût des travaux restants et de définir les modalités de réouverture du marché sud aux commerçants de Matadi. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Et puis les vendeurs installés le long de l'avenue du marché à Mweneditu, dans la province de Lomami, ainsi qu'aux abords de l'école Loigneau, sont nommés de quitter la voie publique pour rejoindre le marché central de la ville. Face aux refus persistants de certains commerçants, malgré plusieurs campagnes de sensibilisation, le maire Gérard Tshibanda Kabwe annonce des mesures plus strictes. Désormais, les marchandises exposées sur la voie publique seront saisies et remises aux détenus à la prison centrale de Mouné Ditou. Esther Ndalafina pour le reportage.
L'avenue du marché est l'une des principales artères de Mouné Ditou. Elle croise la route nationale numéro 1 dans son tronçon qui traverse la ville ferroviaire et mène également vers l'aérodrome. Le long de cet axe stratégique, de nombreux commerçants ont installé des kiosques en tôle, en natte ou en matériaux de fortune afin d'y exercer leurs activités. De part et d'autre de la route, des installations forment un vaste couloir commercial où sont exposés des produits de toutes sortes au détriment de la circulation et de la sécurité des usagers. Pour le maire Gérard Tshibanda, cette occupation de la voie publique est injustifiée. Il souligne que plusieurs étalages restent inoccupés à l'intérieur du marché central où des espaces ont été mis gratuitement à la disposition des vendeurs.
On ne peut pas transformer une route en marché à l'intérieur du marché. On a donné même les places gratuitement.
Après plusieurs années de sensibilisation sans résultat probant, l'autorité urbaine entend désormais passer à une phase de répression. Les marchandises exposées sur la voie publique seront saisies et remises aux pensionnaires de la prison centrale. Il convient de rappeler que plusieurs vendeurs ont déjà perdu la vie dans des accidents de circulation survenus le long de ces routes très fréquentées. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
La circulation des véhicules et des motos devient de plus en plus difficile sur plusieurs artères des trois communes de la ville de Bukavu. Cette situation résulte de la détérioration de la voirie urbaine, faute d'entretien. Pour les forces vives locales, l'état des routes handicape le trafic et expose les usagers à des risques d'accident. Ronelin Tibonera Idi Amin pour les détails.
La route reliant la place de l'Indépendance à Chiriri, dans la commune de Kadutu, figure parmi les axes les plus délabrés. Chauffeurs de bus, mototaximens et piétons se disputent les trottoirs afin d'éviter de tomber dans de nombreux nids de poules qui jonchent la chaussée. Une situation similaire est observée sur les tronçons Kansayo-Cimetière dans la commune d'Ibanda ainsi que l'axe Essence-Maria-Kachelewa. Selon la société civile, ces dégradations affectent la mobilité des habitants et contribuent à l'augmentation des accidents. L'un des membres appelle à la réhabilitation de ces infrastructures pour permettre aux habitants de vaquer à leurs occupations. Notons qu'une situation comparable est vécue sur la route nationale numéro 2 dans les territoires de Mwenga. L'axe Kalambi-Luino, dont la réhabilitation avait été annoncée avant d'être suspendue au 31 juillet, mérite également une attention particulière, notamment entre Mwenga et Kamituga au sud Kivu.
Par ailleurs, les usagers de la route Eringeti-Kainama dans les territoires de Beni au nord Kivu alertent sur le délabrement très avancé de cet axe routier stratégique qui relie plusieurs zones de production agricole et facilite les échanges commerciaux entre les territoires de Beni et d'Irumu dans la province voisine de l'Ituri. Face aux difficultés croissantes de circulation, les transporteurs, commerçants et habitants de la région appellent les autorités à intervenir en urgence pour la réhabilitation de cette route, devenue pratiquement impraticable à certains endroits. Marc Marofimbo nous décrit la situation.
Longue d'environ 45 km, la route Eringeti-Kainama est aujourd'hui devenue un véritable calvaire pour ses usagers. Depuis les fortes pluies enregistrées en juillet dernier dans cette région forestière, plusieurs tronçons se sont fortement dégradés, rendant la circulation particulièrement difficile. Conséquence, les véhicules assurant les transports des produits agricoles ou du bois vers Eringeti ou Beni fréquentent de moins en moins cet axe. Même les motocyclistes éprouvent d'énormes difficultés pour atteindre le centre commercial de Kainama. Pourtant, cette route revêt une importance capitale pour la région. Sur le plan sanitaire, elle facilite l'évacuation des malades vers les structures de santé d'Eringeti, de Hicha ou de Beni. Sur le plan sécuritaire, elle permet aux forces de défense et de sécurité d'accéder plus facilement à cette zone, souvent exposée aux menaces des rebelles ADF et d'autres groupes armés locaux. Au niveau économique, cet axe constitue également une voie essentielle pour les échanges commerciaux entre le territoire de Beni et le centre commercial de Boga dans le sud du territoire d'Irumu en province de l'Ituri. Face à cette situation, les usagers plaident pour une réhabilitation urgente de la route afin de désenclaver la région et de relancer les activités socio-économiques. Nous n'avons pas obtenu la réaction de l'entreprise attributaire des travaux sur cet axe routier. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis la participation de la population pour son développement intégral est un atout important pour la gouvernance locale. C'est l'une des résolutions de l'atelier des trois jours qui s'est clôturé hier samedi à Bounia. Initié par les projets Star RDC, c'était dans le cadre de la redevabilité des autorités publiques et la cohésion sociale en associant directement les citoyens aux décisions relatives aux investissements communautaires. Martial Kizabiamungu pour plus de détails.
Des acteurs sociopolitiques de base et autorités coutumières ont réfléchi pendant trois jours à Bounia aux besoins prioritaires de leurs entités respectives afin d'asseoir un développement local durable. À travers cette démarche, les projets Star RDC attend promouvoir une gestion plus participative des ressources publiques en permettant aux populations locales de prendre part à l'identification des besoins prioritaires et au suivi de l'exécution des projets de développement. Selon les organisateurs, cette approche centrée sur le budget participatif vise également à améliorer la mobilisation des recettes locales et à renforcer le civisme fiscal en établissant un lien transparent entre les impôts et taxes payées par les citoyens et les réalisations concrètes au bénéfice des communautés locales. Pour les autorités provinciales, cette démarche contribuera à restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés tout en renforçant la transparence et l'efficacité de l'action publique au niveau local. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
En République démocratique du Congo, la fonction publique est engagée dans un vaste processus de réforme allant de la maîtrise des effectifs à l'identification biométrique des agents, en passant par la rationalisation des recrutements et l'assainissement du fichier de l'État. C'est ce qu'a déclaré hier samedi à Kindu le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en séjour de travail dans la province du Maniema. Il s'est exprimé à l'occasion d'une séance de sensibilisation destinée aux agents publics de l'État sur l'importance d'adhérer au régime de sécurité sociale. Florence Kizalunga nous en dit plus.
Au cours de cette rencontre, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est revenu sur l'importance pour les agents publics de s'affilier au régime de sécurité sociale afin de bénéficier de tous les avantages et innovations mis en place dans ces cadres. Selon lui, cette adhésion constitue également une garantie pour une meilleure préparation de la retraite et une protection sociale plus adaptée aux besoins des agents de l'État et de leurs familles. Jean-Pierre Liaou.
Il y a la réforme statut qui rationalise toutes les procédures de recrutement avec l'interdiction du système de phénomène de NU où on affectait ici en province sans passer par la fonction publique. Il y a la réforme qui porte évaluation obligatoire des agents publics de l'État qui vont devoir maintenant passer par le process de l'évaluation des compétences et des performances pour pouvoir maintenir leur poste. Il y a la contractualisation. Il y aura des fonctionnaires aussi qui vont commencer à intégrer le système sous contrat et non pas sous carrière. J'ai insisté sur des branches nouvelles comme celle par exemple de risques professionnels qui n'existaient pas, des frais funéraires qui seront désormais pris en charge par l'État en faveur des fonctionnaires.
Bien avant ces séances, Jean-Pierre Liaou a rendu opérationnel le bureau de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État de Kindu. Florence Kizalunga, Kindu, Radio Kapi.
30 enfants âgés de 5 à 14 ans ont participé à un atelier artistique qui s'est clôturé hier samedi à Goma, au Nord Kivu. Organisé par l'association Afoj Jama, une structure qui accompagne les enfants et leurs parents dans la guérison des traumatismes causés par les conflits communautaires et armés à travers l'art. Cette activité a permis aux participants d'apprendre à mieux gérer leurs émotions grâce aux dessins et aux couleurs. Pendant trois jours, ils ont développé leur créativité tout en bénéficiant d'un espace d'expression et de résilience. Bernardine Diambou nous fait revivre l'ambiance de la clôture de cet atelier dans ce reportage.
C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s'est clôturé cet atelier artistique. Pendant trois jours, les enfants ont été initiés aux techniques de dessin et de peinture sur papier et sur toile à travers leurs créations. Ils ont appris à exprimer leurs émotions, leurs ressentis et leurs aspirations à l'aide de formes et de couleurs. L'un des participants témoigne.
Oui, je sais que maintenant, comme pour gérer mes émotions, je peux peut-être dessiner, écouter de la musique, pratiquer toutes sortes d'art.
Pour les organisateurs, la pratique de l'art constitue un moyen efficace d'aider les enfants à gérer leurs émotions. À travers les dessins, ils peuvent extérioriser la joie, la tristesse, la peur, une approche qui contribue à la prise en charge psychosociale des enfants de Goma, souvent confrontés aux conséquences des violences récurrentes dans la région. C'est ce qu'explique ici Materania, l'un des responsables d'Afroj Jama.
Nous avons remarqué que bon nombre des enfants sont traumatisés D'après ce qui s'est passé à l'est du pays, et nous avons jugé mieux d'utiliser l'art, les dessins, pour permettre aux enfants de s'exprimer ce qui se cache encore en fond d'eux, du point de vue sentiments et émotions.
L'atelier s'est clôturé par une exposition et la remise des œuvres réalisées par les enfants eux-mêmes sur papier et sur toile.
Actualité internationale.
Ce dimanche 9 août 2026, l'Afrique du Sud commémore les 70 ans de la marche des femmes de Pretoria. En 1956, plus de 20 000 Sud-Africaines des différentes communautés s'étaient rassemblées devant la présidence pour braver le régime et protester contre les lois de l'apartheid, notamment contre les laissés-passer qui limitaient les déplacements des populations noires. Aujourd'hui, le mois d'août est désormais reconnu comme mois des femmes dans le pays. Mais lorsque les militantes se penchent sur les avancées de leur combat, le bilan est très contrasté et les femmes noires restent l'un des groupes les plus vulnérables de la société.
L'invité
de ce journal est le coordinateur de l'ONG Réseau des associations pour le développement communautaire RADEC. Jean-Claude Kayumba Chabani parle du projet d'assistance d'urgence en protection aux survivants des violences sexuelles dans la zone de santé de Salamabila en territoire de Kabambaré. Nous sommes dans le Maniema. Jean-Claude Kayumba Chabani s'entretient avec Florence Kizalunga.
Jean-Claude Kayumba, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous arrivez fin projet assistance d'urgence en protection aux survivants de violences sexuelles dans la zone de santé de Salamabila. Dites-nous, qu'est-ce qui a été mené là comme activité brièvement?
Merci beaucoup. Nous allons commencer par présenter certaines activités que nous avons menées dans le cadre de ce projet qui a été financé par la Fondation Arnaud de la Camara. On a commencé par le lancement du projet à Kindu, à Salamabila et à Wamaza. Après ça, nous avons briefé sur le circuit des survivants et établir un mot de passe qu'on appelait Caribou. Après, nous avons commencé à implémenter maintenant la mise en œuvre des activités dans les quatre structures qui ont été sélectionnées. Entre autres, Kimbaseke 1, Hôpital Général de Référence de Salamabila, Camp Central et Centre de Santé de Référence de Wamaza.
Dans votre projet, il a été question d'assister 800 survivants. Est-ce que vous avez réussi cet objectif?
Oui, nous avons réussi, madame, jusqu'à ce que nous sommes allés même au-delà de ces 800. Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs, entre autres la réduction des cas de violences sexuelles dans la zone. Et nous avons dit qu'on va traiter ensemble avec le partenaire, on va traiter 800 survivants de violences sexuelles. Mais dans notre projet, nous sommes allés au-delà parce qu'on a traité 1028 survivants de violences sexuelles dans l'espace de 6 mois de notre projet, dans les 4 structures que je venais de vous citer. Nous avons aussi fait la donation de kits de dignité aux survivants. On a aussi payé les factures de soins aux survivants avec d'autres comorbidités, parce qu'il y avait des survivants qui se présentaient avec d'autres maladies. Il fallait qu'ils soient ou qu'elles soient soignées d'abord à ces maladies qu'elles se présentaient avec. Et puis, nous avons fait aussi une grande activité, dont celle de l'élaboration d'un plan de réduction des risques liés aux violences sexuelles, ensemble avec toutes les couches de la communauté.
Quelle a été votre stratégie pour arriver à réussir toutes ces victimes?
Pour arriver à réussir toutes ces victimes, nous avons utilisé une stratégie simple. On avait les ACR, les agents santé de la reproduction. Donc, ce sont les agents qui étaient basés dans la communauté. Et ces agents référaient directement les survivants au centre de santé le plus proche. Parce que dans chaque structure, il y avait des agents santé de la reproduction. Et aussi, arrivé à la structure, il y avait une rapidité de traitement des cas parce qu'on a utilisé un mot de passe.
C'était une façon d'éviter la stigmatisation de ces victimes?
Oui, c'était une façon d'éviter la stigmatisation de ces victimes. Et aussi, on a augmenté une autre activité, l'activité de planning familial. Parce que une victime, si elle arrive, une victime de violence sexuelle, si elle arrive, et aussi une maman qui vient faire la planification familiale arrive, on ne sait pas si cette maman arrive parce qu'elle est victime ou soit parce qu'elle vient faire la planification familiale. Voilà la manière dont nous avons fait pour éviter la stigmatisation des femmes ou des survivants dans la zone.
RADEC ONG, vous êtes venir parce que MSF a quitté la zone. Maintenant, là, vous êtes fin projet. N'est-ce pas une façon de laisser ces victimes encore comme des orphelins et orphelines?
Merci beaucoup, madame. Je peux vous dire que c'est une invitation à toutes les organisations humanitaires de venir œuvrer à Salamabila parce qu'à Salamabila, il y a encore des cas de violences sexuelles. Et au-delà de ça, nous invitons aussi, une fois de plus, nous prions pour que la fondation Arnold de la Camara, celle qui nous a financés, et d'autres congrégations puissent continuer avec la deuxième phase. Parce que si on fait la deuxième phase avec beaucoup de sensibilisation, on espère qu'il y aura une réduction des cas de violences sexuelles dans la zone.
Y a-t-il des difficultés qui ont été enregistrées durant cette période?
Oui, nous avons connu beaucoup de difficultés parce que dans la zone, il y a d'abord l'absence de kit PEP dans la zone santé. Au début de notre projet, nous avons trouvé que trop à kit PEP, il faudra se débrouiller ici et là pour trouver les kit PEP afin de soigner les survivants de violences sexuelles. Et au-delà de ça, les intras aussi de planning familial n'existent presque pas dans la zone santé de Salamabila. Alors c'est une question que j'appelle les autorités, j'appelle les humanitaires afin que cette zone soit aussi renforcée en intrant planning familial.
Jean-Claude Kayumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Radio Okapi.
Notre invité, le coordonnateur de l'ONG Réseau des associations pour le développement communautaire, RADEC, Jean-Claude Kayumba Chabani, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. Fin de ce journal qui a été mis en onde par Jean-Claude Siala. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.